Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Avec nous au téléphone, Françoise Verna, comme toutes les semaines, pour évoquer avec elle la une de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors le premier titre de cette une, c'est un dossier qui porte sur les raisons de la colère des policiers de la police judiciaire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se penche sur qui fait que au sein de la police judiciaire, un peu partout en France, il y a eu une véritable fronde qui est en train de se constituer contre cette réforme de l'institution globale de la police. Mmh. Et donc, nous sommes allés à la rencontre de ces policiers en colère qui nous expliquent les raisons de leur opposition à cette réforme.
Oui.
Une opposition qui s'est musclée depuis la semaine dernière avec le limogeage de façon très brutale du patron de la police judiciaire de la grande zone sud de la France, Éric Arella, donc qui chapeaute aussi bien la police judiciaire de Marseille, de Montpellier, de Toulon, de Perpignan.
Oui. Et qui était très aimé visiblement.
Qui était apprécié, très apprécié, y compris par les magistrats aussi, et qui a été débarqué de façon brutale suite à une manifestation silencieuse des policiers vendredi dernier à Marseille, lors de la venue du directeur général de la police nationale. Ils ont manifesté leur désapprobation et le lendemain, la réponse du sommet de l'État, ça a été de débarquer ce qu'on nomme dans le jargon un grand flic. Mmh. Voilà, donc on revient sur ces raisons précises.
Oui.
Donc ensuite, tout autre sujet, mais qui...
Vaste sujet même.
Oui, qui concerne le quotidien, on va dire, des Montpelliérains, c'est la place des cyclistes dans la ville. Alors en fait, nous avons deux actualités, une double actualité. On a notre invité du grand entretien que nous faisons en partenariat avec Radio Divergence, avec vous. Nous avons accueilli Manu Reynaud, qui est adjoint au maire, délégué à la ville apaisée et respirable, qui préside le groupe des élus écologistes à la ville de Montpellier, et qui donc explique dans nos colonnes, sur l'antenne de Divergence, on peut l'écouter, et dans nos colonnes, en quoi ce choix des mobilités, on va dire, douces, comme les vélos, mais aussi le transport en commun, est une véritable révolution pour la ville de Montpellier. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés encore prégnantes et très fortes, puisqu'on revient aussi sur la question du partage de l'espace public entre les transports collectifs comme le tram, l'automobile, qui est encore très présente, et les vélos, comme l'illustre malheureusement le dramatique accident qui s'est déroulé à la fin du mois de septembre. Et donc, nous donnons la parole notamment à Julie Fraîche, qui est la vice-présidente de la métropole, qui est en charge du dossier mobilité, mais aussi aux représentants syndicaux des traminaux, donc qui conduisent les tramways, qui nous expliquent que leur quotidien, qui n'est pas toujours simple.
D'accord.
Voilà, donc c'est un sujet qui est quand même du quotidien et qui est quand même assez important. On reste sur la question, on va dire, de l'accès à la ville avec la mobilisation du collectif Banc Public à 7.
Oui.
Alors eux, ils se mobilisent depuis plusieurs mois contre la construction d'un parking supplémentaire de 314 places qui est jugé indispensable par la mairie.
Oui.
Alors ce parking dans le centre est déjà en train d'être construit, mais il y a eu une décision de justice qui fait que la mairie doit faire attention à la préservation notamment des arbres qui étaient sur cette place. Donc on revient sur les arguments évidemment qui sont portés par l'association et par la ville, et ça pose la question de comment on accède à la ville, Est-ce qu'il y a des solutions qui sont différentes que la construction de parking? Et voilà, donc on revient sur ce sujet très très chaud pour la ville de Sète et les Sétois.
Mmh. Et côté culture, avec la Marseillaise, on peut partir à la découverte des musiques anciennes avec un festival dans les petites églises romanes et baroques de la vallée de l'Hérault et du Pic-Saint-Loup.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un festival, le festival des musiques anciennes qui va commencer donc le 13 octobre. Et c'est à la fois l'occasion de découvrir la richesse de ces musiques avec des artistes qui maîtrisent évidemment les instruments anciens. Mmh. Et puis de découvrir tout un patrimoine de petites églises romanes ou baroques qui sont dans la vallée de l'Hérault et du Grand Pic Saint-Loup. Donc ça dure du 13 au 23 octobre et il y a deux grands volets. Il va y avoir le premier du 13 au 16 octobre qui va raconter l'épopée du roi Richard Cœur de Lion.
Oui.
Et du 20 au 23 octobre, c'est un récital de violoncelle avec du Bach notamment. Donc on est vraiment dans une proposition qui à la fois invite à découvrir le patrimoine architectural et musical.
On reste pour finir cette une dans la culture avec la nouvelle saison de la scène nationale de Sète et du bassin de Thau, le Théâtre Molière, dont Divergence est fraîchement partenaire.
Ah ben oui, voilà, c'est un beau partenariat parce que c'est une scène nationale qui est extrêmement dynamique et qui va donc cette année proposer pas moins de 52 spectacles, dont 19 créations. Donc
c'est ça, voilà, il y a beaucoup de créations.
Il y a beaucoup de créations, donc on a donc Sandrine Mimi qui est la directrice du Théâtre Molière qui s'exprime dans la Marseillaise et qui nous explique qu'elle aime surprendre les spectateurs. Donc il y aura à la fois des créations, on va dire, extrêmement contemporaines, et puis aussi une programmation qui va aussi faire plaisir aux habitués de ce théâtre, puisque on a des acteurs comme Philippe Torreton qui viennent très régulièrement et qui vont de nouveau être là au mois de mai pour dire un texte aux côtés d'Anne Brochet, qui est aussi une grande comédienne assez rare, et ça fait plaisir qu'elle vienne à Sète. On a aussi du classique, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui est très ancré à Sète, nous explique-t-elle, cette passion pour les textes classiques. Donc ça ira de l'Odyssée en passant par Phèdre.
Ouais.
Et donc évidemment on invite les auditeurs et les lecteurs à se plonger dans cette programmation et à choisir de découvrir et aussi d'aller à la rencontre des nouveaux artistes du spectacle vivant et du théâtre.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Le dossier de cette Marseillaise à paraître ce vendredi porte sur les raisons de la colère des policiers de la police judiciaire qui fait grand bruit en ce moment.
Oui, tout à fait. Donc ça fait plusieurs mois que les policiers de la police judiciaire, donc de la PJ, se mobilisent. Évidemment, maintenant, ça devient de plus en plus prégnant et sur la place publique, si je puis dire, puisque ils ne craignent pas de manifester leur désapprobation de cette réforme.
Mmh. Alors qu'il y a un devoir de réserve, normalement.
Oui, voilà. Donc ils sont soumis, comme ces beaucoup de fonctionnaires, comme tous les fonctionnaires, un devoir de réserve. Mais là, ils sont vraiment très remontés contre cette réforme de l'institution globale. Donc l'objectif de notre dossier, bien évidemment, c'est d'expliquer les raisons de cette colère de ces policiers. Donc nous avons l'interview de Bruno Bartosetti, qui est un responsable syndical de la zone sud, du syndicat Unité LGP Police FO. Donc c'est pas un syndicat qui représente les polices de la police judiciaire, mais c'est un un syndicat représentatif quand même de ce qui se passe au sein de l'institution en général. Oui. Donc, il nous explique que la PJ, la police judiciaire, a une vocation aujourd'hui à la fois régionale, nationale et internationale.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'un officier de police judiciaire peut enquêter au-delà des limites administratives. Hein, donc, et là, avec cette réforme, nous explique-t-il, elle serait départementalisée et sous le contrôle d'un directeur unique qui chapeauterait la PJ, la police aux frontières, ce qu'on appelle la PAF, et la sécurité publique, c'est-à-dire le policier, les policiers et les policières que nous voyons notamment en bleu sur le sur l'espace public. Et donc la crainte des policiers, des enquêteurs, parce que ce sont des enquêteurs qui travaillent sur des affaires extrêmement sensibles, et donc qui ont aussi besoin de temps et de moyens. Donc ce travail interrégional, nous explique ces fonctionnaires, serait complexifié et il y aurait aussi une inégalité selon la volonté des directeurs départementaux. Donc évidemment, le gouvernement, lui, il invoque une meilleure coordination des services et Bruno Bartocchetti nous explique que, en fait, la police judiciaire ne méprise pas du tout la sécurité publique, hein, puisqu'on essaye aussi d'opposer les uns aux autres, les services. Il n'y a pas de guerre des polices. Hein. Donc il y a une brigade anti-stupéfiants à la sûreté départementale. Donc voilà. Mais il y en a une autre à la PJ. Mais ils travaillent, ils savent se coordonner et travailler en commun. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au niveau du monde judiciaire, hein, qui travaille directement avec les policiers de la PJ, puisqu'ils travaillent avec des commissions rogatoires qui sont délivrées par des juges d'instruction ou des procureurs, il y a eu des prises de position des procureurs au niveau national pour alerter sur les dangers de cette réforme. Et les magistrats aussi sont très inquiets. Donc, on est quand même dans une question de service public et de lutte contre le grand banditisme. Hein.
Oui.
Ils reprochent aussi ces policiers cette culture du chiffre et de l'immédiateté de l'arrestation, mais qui ne va pas forcément aller jusqu'au bout des choses. Hein. En gros, on va arrêter la petite main et sans avoir forcément donné les moyens pour démanteler les gros trafics.
Ce qui est synonyme de frustration chez les policiers d'ailleurs.
Oui. Et puis nous avons aussi Hussein Bourgui, qui est le sénateur socialiste de l'Hérault, qui fait partie de la commission parlementaire sur cette réforme et qui lui aussi est très critique sur le contenu. Alors là, évidemment, on en est à un point où le 17 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, il peut y avoir des mouvements coordonnés de manifestations, de cette opposition très très importante à cette réforme voulue par le gouvernement.
Allez, on change de sujet, mais un sujet toujours tout aussi brûlant, en tout cas pour les automobilistes et les cyclistes de Montpellier, la place du vélo dans la ville de Montpellier.
Oui, alors la place du vélo dans la ville de Montpellier, on sait que c'est une priorité de la ville de Montpellier, de l'équipe municipale de Michael Delafosse et de la métropole. C'est la place donc du vélo dans la ville et donc faire en sorte que l'usage du vélo soit vraiment développé. Donc nous avons évidemment une double actualité dans la Marseillaise de ce vendredi. Tout d'abord, on donne une large place avec notre grand entretien avec Manu Reynaud, qui est donc l'adjoint à la ville de Montpellier, délégué notamment à la ville apaisée. Mmh. Et donc, sur ces questions-là, on lui donne largement la parole, hein, donc sur ce choix du transport collectif, de la gratuité, du développement du vélo. Et puis, nous avons aussi un regard, hein, si je puis dire, la réalité d'aujourd'hui qui est encore compliquée. Mmh. Puisque nous revenons sur le décès d'un cycliste sur une voie de tram à Montpellier, donc cette personne n'a pas été percutée par un tramway, mais est tombée suite au fait que la roue de son vélo s'est coincée dans le rail, oui. Et il est mal tombé, et malheureusement, de façon extrêmement dramatique, cette personne est décédée. Donc c'est quand même un fait qui a beaucoup choqué. Mmh. Et donc y compris les élus de la ville et de la métropole se sont aussi positionnés par rapport à ce drame. Donc Julie Fraîche, donc qui est la vice-présidente de la métropole, on rappelle que la métropole c'est elle qui est responsable qui a la compétence transport, hein. Mmh. Donc Julie Fraîche qui est déléguée aux mobilités, elle rappelle la règle, hein. Les voies de tram sont interdites aux cyclistes parce qu'elles sont dangereuses. Oui. Mais il y a évidemment, nous explique-t-elle, une tolérance lorsqu'il n'y a pas d'aménagement sécurisé à côté, et a fortiori lorsqu'ils sont obstrués par des camions, des voitures ou des camionnettes. Mmh. Donc, elle est assez en colère puisqu'elle dit qu'on ne peut, ça ne peut plus durer, et les automobilistes ne peuvent pas rouler sur une piste cyclable, mmh. puisqu'ils obligent les cyclistes et les vélos à se déporter sur la chaussée avec des voitures, notamment, qui arrivent par l'arrière, et donc aussi avec la difficulté de se retrouver peut-être avec un tram qui circule aussi énormément à Montpellier, et c'est très bien qu'il y a un réseau de tramway très développé. Mmh. Donc il va y avoir comme solution la vidéo-verbalisation.
D'accord.
Donc ça va être mis, ça a été mis en place à l'avenue de Toulouse, boulevard Sarail et de Strasbourg, le cours Gambetta et rue du Faubourg Figuerolles. Mais il faut que ça soit vraiment actif pour verbaliser les véhicules qui roulent sur les voies. Mmh. On a aussi le sentiment et la position des traminots. On donne la parole à Reda Berada, qui est secrétaire général CGT à la TAM, oui. Le transport de l'agglomération de Montpellier, qui nous explique qu'il y a un vrai malaise chez les traminots, car c'est ces mots, hein, c'est l'anarchie totale sur les voies de tram à Montpellier. Ils roulent la boule au ventre, car il y a... s'il y a un accident, bien évidemment, c'est eux les premiers responsables. Oui. Hein. Et donc, ils appellent aussi à la prudence, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui sont aussi très imprudents.
Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi le civisme des automobilistes, mais aussi le civisme des cyclistes qui ne respectent pas du tout le code de la route, qui brûlent les feux, qui roulent sur les voies de tram, et c'est
voilà,
ça qui implique des accidents.
Il faut que partager l'espace public, c'est aussi respecter des règles, on va dire, de bon sens. Mmh. Hein, le code de la route, hein. Et donc c'est vrai que les traminots ils ont un message, ils disent eux qu'ils ont entre les mains un tram qui fait 12 tonnes. Mmh. Et donc quand ils font un freinage d'urgence, selon leur vitesse, il nous faut plusieurs mètres pour s'arrêter.
Oui.
Et que les piétons et les cyclistes doivent avoir conscience de ça. Donc il y a tout un travail aussi. Évidemment, nous, le but de ce qui motive la rédaction de cet article dans la Marseillaise, c'est que voilà, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et le partage de l'espace public, c'est pas l'individualisme, c'est mmh. vraiment le terme de partage, surtout que il y a quand même la volonté de développer le transport collectif, mmh. De diminuer donc la pollution. Donc il y a quand même des axes de politique publique qui sont intéressants, très intéressants, mais il faut évidemment que la sécurité de tous soit assuré.
Oui, puisqu'on ce qu'on entend aussi beaucoup sur les pistes cyclables qui sont énormes sur Montpellier, c'est pourquoi des si grosses pistes cyclables pour des vélos. Mais il faut pas oublier, et ça c'était Michael Delafosse qui le disait à notre antenne, que ces voies cyclables sont aussi là pour les véhicules de secours, et ça oui. peut permettre de diviser par deux le temps d'un trajet d'un pompier ou d'une ambulance.
Tout à fait, tout à fait. Donc tout ça, ça nécessite de la communication en fait, hein, oui. De la communication au bon sens du terme, hein, de l'information de service public et d'utilité publique. C'est le but de notre article cette semaine.
Allez, on passe à la mobilisation du collectif Ban Public. Par Ban Public, on comprend tout de suite que ça se passe sur Sète, la commune de Sète, contre la construction d'un parking de 314 places jugé indispensable par la mairie.
Oui, tout à fait. Donc ça fait quelques temps que cela dure. D'un côté, la ville de Sète qui veut faciliter l'accès, notamment au centre de la ville, hein, au commerce, à la vie très très active, culturelle et on le sait associative de cette belle cité. A eu l'idée de faire un parking souterrain supplémentaire de 314 places, mais en face, il se heurte évidemment à la mobilisation d'un collectif qui lui explique qu'on n'a pas forcément besoin de ce parking supplémentaire. Ouais. Alors, il y a eu un fait nouveau assez important, c'est que au début du mois d'octobre, le tribunal administratif de Montpellier a donné en partie raison au collectif en public, ouais. Notamment sur la question de la transplantation de 52 tilleuls qui ornent la place sur laquelle est construit ce nouveau parking. Donc on a Christophe Ocagne, qui est trésorier du collectif, hein, Ban Public, qui espère que le préfet donc de l'Hérault va comprendre et ne va pas accorder à la ville l'arrachage des arbres. Parce qu'en fait, le tribunal a dit que la ville devait avoir l'autorisation de la préfecture pour transplanter ou arracher, on voit que les mots, selon le terme que l'on emploie, ça n'a pas le même impact. Ils sont situés, ces tilleuls, sur l'emprise du futur parking et ils doivent être replantés à proximité du stade Louis-Michel. Ça, c'est ce que nous dit la ville. Hein. Mais pour Ban Public, cette transplantation ne leur va pas du tout. D'abord parce que les arbres risquent de périr. Mmh. Donc, on a le maire de Sète, François Comen, qui lui continue à défendre son projet, qui dit que cette décision du tribunal ne remet absolument pas en cause le bien fondé ni la légalité du chantier, et il réexplique que ce futur parking est là pour éviter aux Sétois, hein, la recherche de place dans le centre-ville, et puis pour ces pour redynamiser le cœur de ville.
Eh oui.
Donc c'est vraiment, alors est-ce que c'est un dialogue, on va dire, infructueux entre les deux? C'est toujours bien que des citoyens se mobilisent pour faire valoir une autre conception justement de l'espace public. Hein.
Oui.
Donc ils expliquent aussi, donc on leur donne largement la parole, hein, qu'il y a déjà 3 parkings souterrains à proximité à Sète, ceux du canal, des Halles et Victor Hugo. Et ils disent qu'ils sont pratiquement jamais pleins. Ils ont vraiment travaillé. Hein. Ils ont fait un relevé statistique sur le site de la ville de Sète. Pourquoi on refait un parking si les 3 existants ne sont pas pleins? Ils expliquent aussi que s'ils sont délaissés, c'est parce qu'ils sont trop chers. C'est vrai qu'on pourrait aussi faire un dossier entier sur la pratique des prix des parkings. Hein. Ce que dit la mairie, parce qu'évidemment, il faut donner les arguments des uns et des autres, hein, c'est que ce nouveau parking, donc place Aristide Briand, a pour but de redonner son âme à cette place historique, puisqu'elle a été construite en 1898. Hein. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de supprimer le maximum de stationnement en surface pour libérer l'espace public, élargir la zone piétonne sur la rue du 11 novembre 1918, et le futur parvis de la salle Brassens. Donc ça, ce sont des arguments aussi opposés à Ban Public. Mais Banque Publique, c'est pas simplement 600 adhérents. Hein, il y a quand même une pétition qui a recueilli 15 000 signatures. Voilà. Donc Christophe Ocagne, donc qui parle au nom de Banque Publique, eux, ils prônent la création de parkings gratuits ou peu chers à l'extérieur de la ville et des navettes gratuites pour se rendre en cœur de ville, dans le centre-ville. C'est un système qui avait été adopté lors des dernières escales à Sète, oui. Au printemps, parce que évidemment Sète, ça, il y a les Sétois, évidemment, puis il y a toutes les personnes qui vont bien évidemment participer et à tous les événements. En l'occurrence, escale à Sète, il y avait 200 000 personnes.
Eh oui, c'est énorme.
Il faut bien que ces personnes puissent arriver dans la ville. Hein. Le Banque Publique dit que ça a fonctionné. Est-ce que ça peut être pérenne ou ponctuel? En tout cas, nous, on donne tous les termes du débat dans cet article pour que chacun, évidemment, se forge son avis. Et puis, voilà, pour aussi montrer que tout n'est pas simple et que c'est quand même aussi simple pour la démocratie locale, qu'il y ait des mobilisations, des discussions, et on voit que les choses peuvent se passer, même si c'est très, ça peut être un peu tendu et ça peut être un peu inflammable, ça peut aussi se passer de façon, apaisée. Mmh. Voilà.
Et ce sujet est bien sûr à lire dans La Marseillaise, à paraître ce vendredi. Côté culture, on part à la découverte des musiques anciennes avec un festival dans les petites églises romanes et baroques dont regorge la vallée de l'Hérault, et aussi du côté du Pic Saint-Loup.
Oui, alors ça c'est un peu notre coup de cœur parce que ce festival des musiques anciennes, donc il va se dérouler sur une période assez, sur une dizaine de jours, enfin 10 jours, du 13 au 23 octobre. Mmh. Et donc nous on dit que c'est un voyage à travers les siècles, hein, c'est la 9e édition. Oui. L'intérêt, il est multiple. Hein. Il y a deux grands intérêts, deux grandes raisons pour aller découvrir ce festival. C'est à la fois, il se déroule dans les petites églises romanes et baroques des pays de Gangeois et Suménois de la vallée de l'Hérault et du Grand Pic Saint-Loup. Donc ce sont de véritables écrins. Hein, et donc il y a l'intérêt, on va dire, patrimonial, hein, d'aller découvrir ces belles architectures qui sont souvent modestes par la taille, mais énormes et grandioses par l'intérêt architectural.
C'est ce que nous disait le conservateur du département, il n'y a pas de petit patrimoine.
Exactement. Et donc, il y a ce côté patrimonial, aller écouter dans un lieu chargé d'histoire, hein, et de spiritualité aussi, et de découvrir les musiques anciennes. Donc les musiques anciennes, c'est quelque chose, il y a un répertoire médiéval et de la Renaissance qui est vraiment très 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 important. Cette année, il y a donc deux groupes musicaux qui ont été en résidence. Qui ont eu carte blanche, et cette résidence a donné naissance à 8 concerts. Ouais. Ces 8 concerts, ils sont regroupés sur 2 fins de semaine. Hein. Donc en fin de semaine, parce que ça permet, quand on travaille, d'aller au concert quand on est en repos ou en congé. Donc on a deux grands chapitres. Hein. Le premier, c'est du 13 au 16 octobre. Ça raconte l'épopée du roi Richard Cœur de Lion. Il y a le manuscrit de Bayeux, la musique espagnole du 12e au 14e siècle et les anges musiciens. Et on a un deuxième tableau qui est plus d'essence baroque. Il va s'égrener du 20 au 23 octobre avec un récital de violoncelle. Il y aura des trios violoncelle, clavecin, autour des violons des Lumières, voilà. On va avoir vraiment une palette de concerts qui vont permettre de découvrir ou de redécouvrir, ou en tout cas d'écouter dans les conditions, enfin, je veux dire, très très vivantes, cette musique qui est bon magnifique à découvrir. Hein. Il y a aussi un tarif unique par concert qui est de 15 euros. Donc c'est pas excessif, ça reste 15 euros, mais c'est pas excessif parce que ce sont des groupes de musiciens, et donc c'est... Si on ramène ça à une place de cinéma aujourd'hui,
oui, c'est tout à fait abordable.
Voilà. Donc ça reste quand même accessible. Donc on peut réserver sur lesmusendialogue.com ou au guichet de Soran du Musée Fabre de Montpellier ou sur le site, le site du festival. Voilà, donc c'est à partir du 13 et on donne, je pense, en tout cas, le but, nous, c'est de donner envie d'aller découvrir ces concerts.
Et puis, nous, on vous encourage parce que, outre la beauté du lieu, la beauté de la musique, il y a aussi la beauté du son que l'on peut retrouver dans ces édifices et en écoutant de la musique acoustique.
Bruno, complètement raison parce que... écouter un concert dans les églises, c'est vrai, au niveau du son et de la qualité de l'écoute, c'est incomparable.
Ça change tout. Allez, on termine cette page culture avec la scène nationale de Sète et du bassin d'Otto. C'est bien sûr le théâtre Molière, un magnifique théâtre à l'italienne que l'on retrouve sur Sète.
Oui, tout à fait. Donc, la scène nationale de Sète, hein, c'est pour la saison qui vient, là, qui s'est ouverte. Hein, c'est 52 spectacles et il y a 19 créations. Donc, c'est quand même très, très... C'est remarquable. Hein.
Oui.
Donc, on a donné la parole... on donne la parole dans ce numéro à Sandrine Mini, qui est la directrice donc, de ce théâtre Molière. Hein. Donc, elle nous dit qu'évidemment, il y a une envie d'ouverture, de regard toujours renouvelé sur la création et avec l'objectif, c'est de, comme elle nous l'explique, c'est de continuer à aiguiser la curiosité des spectateurs et en même temps, à la fois, il faut aussi les fidéliser. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une programmation qui est, à notre sens, tout à fait équilibrée avec des créations. Par exemple, Tumulus de François Chéniaud et Geoffroy Jourdain en coproduction avec le théâtre Molière. Ça, c'est aussi très important que les scènes nationales aient les moyens de coproduire des spectacles. Hein. Donc, évidemment, c'est vraiment des formes, des nouvelles formes de spectacle vivant. Hein. Elle nous explique, hein, bon, évidemment, elle est très enthousiaste, hein, elle nous dit que ce qui est fabuleux dans cette œuvre, c'est qu'on se retrouve avec une grande masse humaine chantant et dansant, un peu comme une forme de rituel un peu païen.
Ouais.
Et bon, elle a dû voir, évidemment, elle a un œil très privilégié, puisqu'elle est coproductrice les répétitions. Hein, il faudra attendre le 28 mars, mais on peut déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a déjà toute la programmation à disposition et qu'on peut déjà réserver ses places et aller, on va dire, picorer dans ce programme qui est très, 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 très vaste. Hein. En janvier, on va avoir la compagnie 26 000 couverts de Philippe Nicole, qui vient de Marseille, qui va débarquer à Sète avec la création qui s'appelle Chamonix. Alors, c'est une comédie musicale futuriste. Ça doit donner envie.
Wow.
Ça. voilà. Puis bon, donc 26 000 couverts, voilà, ça donne envie. ça ouvre l'appétit. Hein. voilà. Et comme on le disait, c'est à la fois aussi maintenir et consolider des liens qui ont été tissés depuis longtemps avec les spectateurs de cette scène nationale à Sète, puisqu'on a des voilà cette fidélité. On a par exemple le grand comédien Philippe Torreton qui va revenir à Sète où il a son public, où il est adoré. Hein, et donc il vient jouer le 10 mai. Alors à côté, alors là c'est encore... c'est encore merveilleux. Anne Brochet, qui est une actrice, une comédienne formidable. Hein. Donc, elle va jouer un texte de... Ils vont jouer « Tout mon amour ». C'est un texte de Laurent Mauvignier, un grand auteur. On a aussi un autre habitué qui va être là au mois de mars. C'est l'Italien Pippo Del Bono qui va présenter aussi un nouveau spectacle au nom qui est en soi tout un programme, Amore, donc Amour. Voilà, donc c'est pareil, un voyage musical, lyrique, poétique. Donc le théâtre, le spectacle vivant qui ne s'interdit rien. Mmh. Et puis comme on est sur les bords de la Méditerranée, on a aussi cet amour vraiment profondément ancré à cette pour les textes dits classiques hein, qui sont à la, je veux dire, au fondement de notre imaginaire collectif, hein, notamment l'Odyssée.
Et oui.
Voilà, mais aussi des grands textes de Jean Racine comme Phèdre, mais quand même passé, nous dit-elle, à la moulinette, hein, puisque on est quand même dans des lectures contemporaines de ces grands classiques et de ces chefs-d'œuvre. C'est-à-dire, la définition du chef-d'œuvre, c'est l'œuvre qui résiste au temps.
Et oui.
Voilà, donc il faut y aller, il faut courir au Théâtre de Sète en essayant de se garer correctement.
Oui. En tout cas, nous, chez Divergence, on vous encourage vraiment à vous rendre sur cette scène nationale du Théâtre Molière de Sète, parce que outre les beaux spectacles que vous pourrez y voir un très beau lieu de ce théâtre à l'italienne. Et puis je rappelle aussi que Divergence est fraîchement partenaire de cette scène nationale et vous retrouverez.
Et nous en sommes ravis à la Marseillaise.
Et oui, et puis vous trouverez plein de contenus additionnels sur notre antenne et en podcast sur notre site internet,
oui.
www.divergence-fm.org. Merci beaucoup, Françoise.
Merci à vous. À bientôt.
On se donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.